des sujets qui vous interpellent. Voici Jean-Luc Mongrain.
Là, suivez-moi bien parce que l'affaire est assez compliquée. Ce matin, dans les journaux, Le Figaro, entre autres, un journal français, on apprend qu'un organisme, une société qui s'appelle la franc-maçonnerie, les francs-maçons, ont fait un livre blanc, un projet de programme de retour à la normale après la COVID qu'ils ont présenté au gouvernement français et au président Macron. Là, ça m'a dit, hey, les francs-maçons, c'est une société secrète, ça. C'est quoi cette affaire-là? Mais il y en a à Montréal. Ça existe, la franc-maçonnerie à Montréal. Ça existe dans le monde entier. Et là, je me suis dit, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. C'est une secte? C'est une société secrète? Ça vient d'où? On est-tu dans l'ordre des Templiers? C'est quoi ce nom-là? Parce que c'est le lieu. Le secret, c'est le lieu du mystère. Et le lieu du mystère, c'est le lieu de toutes les spéculations et des fabulations possibles et imaginables que j'ai entendues à travers toutes ces années, comme jeune homme et comme homme. Et ma formation fait en sorte que tout ce qui est un petit peu particulier et qui vit dans le secret m'intéresse. Alors, j'espère d'être capable de vous intéresser avec notre invité au cours des prochaines minutes. C'est M. Hervé Gagnon, qui est historien et spécialisé dans la franc-maçonnerie. Bonjour, M. Gagnon.
Bonjour, M. Mongrain.
Qu'est-ce que c'est que les francs-maçons? Ça sort d'où, ça?
Vous avez combien d'heures?
non, faites-moi ça vite. Je sais que ça date de très longtemps, du Moyen-Âge même.
Ben, écoutez, dit très simplement, la franc-maçonnerie est la descendante en ligne droite des tailleurs de pierre des chantiers de cathédrales du Moyen-Âge.
Alors, franc-maçon, maçon pour maçonnier, la maçonnerie.
Et le franc, parce que les maçons, à l'époque, qui étaient le corporation de métier du Moyen-Âge, jouissaient d'une franchise qui leur permettait de franchir les frontières sans être inquiétés pour aller d'un chantier à l'autre, proposer leurs services.
Des bâtisseurs de cathédrales.
Ça pouvait être un monastère, ça pouvait être château, ça pouvait être un édifice public. Et lorsqu'ils arrivaient là, ben ils se présentaient à ce qu'on appelait la loge, c'est-à-dire l'endroit où le maître du chantier distribuait le travail le matin à tous les compagnons et à tous les apprentis. Et ils donnaient une poignée de main qui démontrait qu'ils étaient soit compagnons, soit apprentis. Ils donnaient le mot de passe qui allait avec. Et on leur confiait du travail.
C'était comme leur carte de compétences.
Ben,
le signe, le geste, la poignée de main, la reconnaissance donc que c'est pas des incompétents, ils ont leur carte de compétence.
Ben voilà, et le fait qu'on lui, par exemple, que l'étranger se présentait et connaissait le signe et la poignée de main du compagnon maçon, ben ça montrait sa compétence, alors lui, on allait lui confier des apprentis, vous comprenez?
Oui, je comprends très bien. Dites-moi, M. Gagnon, quand est né le mystère et le secret autour de ça?
Oh, c'est né à la fin du 18e siècle, après la Révolution française, alors qu'un prêtre monarchiste, l'abbé Baruel, a fui en Angleterre et a publié quelques tomes d'une histoire de la Révolution française dans laquelle il a accusé la franc-maçonnerie d'avoir fomenté la Révolution française pour faire tomber à la fois l'Église et la royauté.
Et on reprend ça depuis
toujours, depuis ce temps-là, toutes les théories du complot tournent autour du même modèle. C'est frappant.
Ça tombe bien parce que la théorie du complot, là, on en entend parler même pour un virus là, à ce moment-ci.
Mais on a même accusé les francs-maçons récemment d'avoir produit le virus. J'ai vu passer ça, moi.
Ben, pourquoi vous avez pas... Pourquoi comme historien, pourquoi les francs-maçons n'ont jamais voulu ouvrir, justement, pour briser ce silence-là autour de leur organisation et faire en sorte de briser les spéculations qui se font derrière des portes closes?
C'est ce qui se fait de plus en plus. Okay. Particulièrement en Occident, là, ben, peut-être pas en Europe, mais aux États-Unis, au Canada anglais, puis ici au Québec, ça se fait de plus en plus. Tiens, pas plus tard que novembre l'an dernier, il y avait une journée porte ouverte à la Grande Loge du Québec qui a attiré pas loin de 700 personnes.
La Grande Loge du Québec, ça, c'est au 1850 Sherbrooke West.
C'est ça, au coin de Saint-Marc, là, devant le Collège Notre-Dame, juste en biais du Grand Séminaire.
Méchante bâtisse, hein, c'est quelque chose.
Oui, on la remarque pas jusqu'à temps qu'on apprenne ce que c'est. Et là, tout d'un coup, on la remarque. Oui. Mais elle est là depuis la fin des années 20. C'est un édifice absolument splendide, somptueux, classé monument historique.
Oui, tout à fait.
Mais c'est pas si secret qu'on dit tous les secrets sont sur Internet. Il n'y en a pas de secrets. Et la franc-maçonnerie elle-même se dit non pas secrète, mais discrète.
Bon, alors...
Bon, c'est de la sémantique.
Je comprends. Je veux faire des parallèles. Est-ce que, pour ce que l'on connaît, nous, ici, là, au Québec, là, parce que la franc-maçonnerie, on connaît peut-être moins ça pour des raisons historiques, culturelles ou sociologiques.
Religieuses, surtout.
Est-ce que c'est comme les chevaliers de Colomb, c'est comme l'ordre de Jacques Cartier, c'est comme la patente qu'il y a eu à un moment donné, ça s'appelle la patente,
ben,
ça s'appelle...
C'est le contraire. Les chevaliers de Colomb ont été créés aux États-Unis par un prêtre catholique irlandais, justement, pour éloigner les bons catholiques de la franc-maçonnerie.
Ouais.
Et on a copié les rituels maçonniques et on en a fait les rituels des chevaliers de Colomb.
Okay.
La patente, c'est modelé sur l'aspect, je dirais, plus secret de la maçonnerie, parce que, bon, quand même, on avait besoin de quelque chose d'hermétique. Et moi, j'ai connu des gens qui étaient à la fois membres de la patente et de la franc-maçonnerie, à l'époque, quand ils étaient jeunes.
Oui. Dites-moi, quelle différence qu'il y a, comme historien, entre... Pas comme historien. Quelle différence qu'il y a entre une société secrète et une secte?
Ah, ben ça, c'est la bonne question. J'ai monté l'an dernier une exposition sur la franc-maçonnerie au Musée des cultures du monde à Nicolet, et c'est comme ça que j'ai ouvert l'exposition. On va vous dire ce que c'est pas, pour commencer. Et la première chose que j'ai démontré, c'est que une secte, c'est dirigée par un leader charismatique qui établit une emprise sur ses ouailles, sur ses disciples, qui leur fait subir des sévices, qui les humilie, qui leur lave le cerveau, etc., etc. Par exemple, l'ordre du Temple solaire, la secte de Moïse Thériault, etc.
Oui.
Ça, on parle de secte. Et on n'en sort pas. Une fois qu'on est là, on est là. Hein? Alors que la franc-maçonnerie, c'est tout le contraire. Et toutes les sociétés secrètes sont à peu près, moi, celles que je connais, on les connaît pas toutes, évidemment. Il y en a qui sont tellement secrètes qu'on on peut rien apprendre dessus. Mais dans le cas de la franc-maçonnerie, c'est tout le contraire. On y entre parce qu'on le souhaite et on en sort quand on n'a plus envie d'y être. Et entre les deux, moi, de ma foi, il y a aucune contrainte ni idéologique ni religieuse.
Quel est l'avantage? je veux pas parler en question d'affaires, mais quel est l'avantage?
Je vous vois venir. Là.
Allez-y d'abord. Je poserai même pas.
Vous voulez savoir quel est l'avantage d'appartenir à la franc-maçonnerie?
La valeur ajoutée du secret et de la franc-maçonnerie.
C'est ça. Ben là, dans le fond, vous faites allusion à tout ce qu'on raconte comme au sujet du copinage, de l'affairisme et tout ça. Écoutez, c'est sûr que les francs-maçons entre eux se connaissent. Tu sais, si un franc-maçon veut se faire poser des fenêtres dans son salon, il va peut-être demander à un autre franc-maçon de venir les poser parce qu'il est sûr que le travail va être bien fait parce qu'ils se connaissent. Bon.
Et là, il y a un signe comme chez les chevaliers de Colomb pour se reconnaître, comme il y avait dans le temps des bâtisseurs de cathédrales.
Ouais, mais vous pouvez le trouver sur Internet, le signe. C'est pas plus secret que ça. Par contre, en France, c'est vrai qu'il y a une tradition plus affairiste, tradition d'action sociale et de réflexion philosophique et politique, notamment au Grand Orient, qui a produit ce document dont auquel vous faisiez référence au début. Et quand on le voit, ce document-là...
Excusez-moi, pour ma connaissance, le Grand Orient étant...
Bon, c'est que la franc-maçonnerie se divise en obédience, c'est-à-dire, dans le fond, en type de franc-maçonnerie. C'est comme n'importe quel gros groupe, éventuellement, il y a des subdivisions. Et dans ce cas-ci, vous voyez, par exemple, la franc-maçonnerie québécoise est en très, 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 très grande partie liée à la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui est la première grande loge publique de l'histoire de la franc-maçonnerie. Le Grand Orient, lui, s'est séparé de la Grande Loge Unie d'Angleterre en 1877, parce qu'il a cessé d'exiger de ses membres qu'ils professent une foi en un être supérieur, quel qu'il soit.
Écoutez, M. Gagnon, je m'excuse. Moi, je ne suis pas le Grand Orient, mais je suis le Grand Sablier et le temps file. qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a une baisse de popularité? Vous avez déjà été près de 50 000 membres. Il en reste 3 500 à peu près de répertoriés. Tous ces mouvements-là semblent se baisser. C'est-tu la désacralisation de nos sociétés, la laïcisation de nos sociétés? C'est quoi?
C'est la question que tous ces groupes-là se posent. Il y a eu un boom de franc-maçonnerie. Vous allez rire, mais il y a eu un gros boom dans la franc-maçonnerie après l'apparition du Code da Vinci.
Ah ben oui.
Dan Brown. Parce que là, tout le monde voulait aller voir c'était quoi le secret.
Ben oui.
Et là, ils se sont aperçus qu'il n'y en avait pas, puis ils sont tous repartis. Mais ce qui explique la baisse, moi, je dirais que c'est un ensemble de facteurs. C'est l'individualisme, premièrement. C'est le fait que la maçonnerie, comme tous ces groupes-là, ne fait pas vraiment de... Bon, on fait pas de recrutement. Ça affiche pas publiquement. Alors, les gens savent pas trop ce que c'est. Ils savent pas trop comment y avoir accès, comment le trouver.
Ben là, on le sait plus.
Ben, je sais pas. Peut-être que oui. Mais par contre, je vous dirais que ceux qui trouvent la franc-maçonnerie, généralement, les enquêtes le prouvent, c'est justement qu'ils cherchent un côté, à retrouver un côté sacré, un côté spirituel à la vie qu'ils ne trouvent plus dans la vie de tous les jours.
Mais vous, vous n'avez pas ça, il n'y a pas d'allégeance religieuse.
En maçonnerie, non. Non, au contraire, la maçonnerie est écuménique, considère toutes les religions égales. C'est ce qui lui a valu tant de problèmes avec l'Église catholique qui, elle, considérait que
oui, il y a une vérité, sûr, il n'y en a pas d'autre. C'est un péril.
Ben ouais.
Merci beaucoup, Hervé Gagnon, historien spécialisé en franc-maçonnerie. Ça nous a éclairé un peu et je pense que ça a pu susciter certains intérêts dans la population et chez nos auditeurs. On s'arrête pour une pause et on revient avec le directeur général de Moisson Montréal. Lui, je veux dire de quoi, il travaille fort de ce temps-là parce qu'on dirait que on manque, la demande est forte chez Moisson Montréal.